Le Seigneur l'a fait avant moi, donc c'est très bien. Je vais continuer notre lecture du sermon sur la montagne. Nous allons terminer, nous allons conclure ce matin. Alors j'ai eu l'honneur de débuter la série et j'ai le privilège de la conclure. Et j'ai trouvé très important que la lecture de l'évangile de Matthieu a pu rythmer nos cultes durant tout ce trimestre. Et puis je vous rappelle comment ça a commencé. À la vue de la foule, Jésus s'assoit, ses disciples s'approchent de lui, il est juste assis comme une personne ayant autorité, et il enseigne comme quelqu'un qui a autorité. Il ne donne pas simplement des opinions, il ne donne pas simplement des impressions sur ce que devrait être la vie et la vie des disciples. Il nous dit exactement ce à quoi doit tendre la vie des enfants de Dieu. Il parle avec autorité parce que lui qui est assis, il est le Créateur, le Sauveur et le Seigneur. Le sermon sur la montagne, nous l'avons vu, c'est comme une feuille de route, comme le cap à suivre pour tous ceux qui veulent suivre Jésus-Christ. Et j'espère que nous le sommes ce matin, désireux de suivre notre Sauveur et Seigneur. Alors nous avons pris le temps de la lecture, nous avons pris le temps de la méditation, et je voudrais résumer en quelques lignes, en quelques mots, toutes les prédications qui ont été données avant de poursuivre notre lecture et d'en conclure. Ça va, Joy? T'es pas déçu que les Anglais ont perdu? Ah, tu es française. Ah bon, ça va alors. Il faut prendre soin les uns des autres. C'est le sermon sur la montagne. Hein? Avec les béatitudes, nous avons entendu les attitudes que nous sommes appelés à développer avec l'aide de l'Esprit Saint. Avec les deux images du sel et de la lumière, nous avons entendu comment ceux qui vivent les béatitudes, par leur belle manière, affectent le monde. Jésus a ensuite expliqué qu'il était venu non pas pour abolir, mais pour accomplir la loi en lui donnant tout son sens. Notre justice, la justice des enfants de Dieu, doit dépasser celle des scribes et des pharisiens, en ce sens que la véritable justice ne se complète pas dans une seule œuvre extérieure. Le cœur et l'être intérieur est touché par la justice parfaite de Jésus. On peut paraître juste aux yeux de la justice des scribes et des pharisiens, tout en étant meurtrier, adultère, idolâtre au fond de son cœur. L'amour est au centre de la loi, son premier mot, nous rappelait Frédéric. Jésus a développé une théologie simple à l'égard des disciples. Dieu est votre Père céleste, soyez parfait comme votre Père céleste. Waouh, quel niveau! Faites les choses extraordinaires que le Père fait. Et puis ensuite, le Seigneur donne des instructions spécifiques sur la manière de donner, de prier, de jeûner. Cela se pratique dans le secret avant d'être manifesté en public. Et ce qui est formidable, c'est que la récompense que nous attendons, c'est la présence même du Seigneur qui est là dans notre lieu secret. Et puis aussitôt et paradoxalement, on découvre la dimension communautaire de la prière et ainsi que la centralité du pardon reçu et donné. Jésus continue à donner ses instructions spécifiques, en particulier sur les inquiétudes qui, pareil au loup de Parignargues, nous paralysent et nous font vivre dans la crainte. Vous vous rappelez? Et puis le Seigneur nous a appris aussi à ne pas nous juger les uns les autres, tout en prenant soin des uns des autres, avec cette règle que l'on appelle la règle royale ou la règle d'or. Faites aux autres ce que vous aimeriez que l'on vous fasse. Alors le sermon sur la montagne, c'est une mine inépuisable et nous n'avons donné que quelques coups de pioche dans cette mine. Alors, je vous propose de lire maintenant la suite. chapitre 7 et le verset 13. Entrez par la porte étroite. En effet, large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Méfiez-vous des prétendus prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups voraces. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des ronces ou des figues sur des chardons ? Tout bon arbre produit de bons fruits, mais le mauvais arbre produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé, jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur !» n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. Beaucoup me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom ? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom ? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom ?» Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai pas connus. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. » C'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je la comparerai à un homme prudent ou à un homme sage qui a construit sa maison sur le rocher. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, ils se sont déchaînés contre cette maison, mais elle ne s'est pas écroulée parce qu'elle était fondée sur le rocher. Mais toute personne qui entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique ressemble à un fou qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. Elle s'est écroulée et sa ruine a été grande. Quand Jésus eut fini de prononcer ces paroles, les foules restèrent frappées par son enseignement, car il enseignait avec autorité et non comme leurs spécialistes de la loi. Je vais continuer juste un petit peu. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Alors un lépreux s'approcha, se prosterna devant lui et dit « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Et Jésus tendit la main, le toucha et lui dit « Je le veux, sois pur. » Et aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Seigneur, on vient d'écouter ta parole. Seigneur, viens l'ancrer dans nos cœurs. Permet que cette parole soit transformatrice encore dans nos cœurs. Seigneur, c'est toi qui as parlé avec autorité et nous voulons écouter ce que tu as à nous dire encore ce matin. Amen. Nous sommes donc ici à la fin de l'enseignement de Jésus et nous avons ici comme une conclusion à son discours. Il a beaucoup parlé, il a dit des choses incroyables. Et là, il nous dit des choses importantes. Comment est-ce que nous recevons son enseignement ? Nous avons ici, et vous l'avez remarqué, je pense, comme trois images, trois métaphores. Regardez avec moi comment le passage est construit. Il y a deux sortes de portes, deux sortes de chemins. Deux sortes d'arbres, deux sortes de bâtisseurs. Il y a deux sortes de portes, une étroite, l'autre large. Une qui s'ouvre sur un chemin resserré, l'autre sur un chemin spacieux. Une qui aboutit à la vie et l'autre à la perdition. Peu empruntent la première porte, en revanche, la porte large est emprunté par beaucoup. Il y a deux sortes d'arbres. Le vrai disciple, il n'est pas nommé, mais on peut le comprendre aisément, et le prétendu prophète, qui dit et qui ne fait pas, qui paraît, mais qui n'est pas. Le vrai disciple est une brebis, le prétendu prophète est un loup déguisé en brebis. Le vrai disciple est un bon arbre. Le prétendu prophète est un mauvais arbre. Le vrai disciple porte des bons fruits, des raisins et des figues. Le prétendu prophète porte des mauvais fruits. Un sera coupé et jeté au feu du jugement, et l'autre amène à la vie. C'est implicite dans le texte. Le premier fait la volonté du Père céleste, l'autre ne la fait pas, bien qu'il dise « Seigneur, Seigneur », et malgré les prétendus miracles apparents en son nom. Il y a deux sortes de bâtisseurs, un sage ou prudent, et l'autre est fou. Le premier entend les paroles de Jésus, les met en pratique, et l'autre les entend aussi, mais ne pratique pas. L'un a construit sur le roc et l'autre a construit sur le sable. Les deux affrontent la trompette, mais l'un tient debout et l'autre s'effondre. Que représentent ces trois métaphores? Que représentent ces trois images? Elles représentent la manière de vie du disciple qui désire suivre Jésus comparée à la vie de celui qui ne désire pas le suivre ou qui fait profession de le suivre tout en ne le suivant pas. Vu comme cela, la conclusion de Jésus est comme un développement du psaume 1. Vous le connaissez, ce psaume 1, le psaume des deux voies. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Tiens, ça commence par une béatitude. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Il y a deux verbes que je voudrais souligner, deux verbes qui me semblent importants. Le verbe « entrer » et le verbe « méfiez-vous » ou « gardez-vous ». Jésus les a utilisés ensemble dans une même conclusion. Ils forment à eux deux une interpellation et en même temps une invitation. Le premier nous bouscule dans nos conforts individuels, se méfier. Pas nécessairement des autres, surtout de soi. C'est une interpellation à se méfier de soi, un appel à s'interroger sur soi, à se méfier de se contenter de l'apparence, à se méfier d'être et de rester de simples auditeurs. Méfiez-vous des faux prophètes, des prétendus prophètes. Ça peut être nous. Et puis, il y a un verbe qui est une invitation puissante, un appel à entrer délibérément, intentionnellement, par la porte et à marcher sur le chemin resserré. Entrer par la porte étroite. Alors, nous avons lu et nous avons écouté le sermon sur la montagne. Vous avez été très sages. Vous avez écouté religieusement. Super! On s'est réjouis ensemble, on a ri ensemble, on a approfondi ensemble le sermon sur la montagne. Et puis nous avons dit, waouh, quelle profondeur, quelle richesse, quelle sagesse. Mais nous pouvons rester en dehors de cet enseignement, en dehors de sa mise en pratique. Alors nous serons comme des bâtisseurs sur du sable, comme ces prétendus prophètes qui entendent, qui parlent, et qui ne font pas, avec les faux-semblants et les apparences. Ou alors, nous restons dans l'esbrouf, nous disons « Seigneur, Seigneur », mais nous ne faisons pas la volonté de notre Père céleste. Alors, une double parenthèse quand même. Je ne nie pas que Jésus ne nous met pas en garde contre des faux enseignants qui pourraient enseigner des choses contraires à l'Évangile, ou qui les tordraient ou les distordraient. Ça existait tout le long de l'histoire de l'Église, ça existe encore. Jésus nous donne les critères pour les confondre. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Je vous avais déjà raconté cette histoire. C'est dans une des lettres des pères de l'Église. Donc, siècle, premier siècle, deuxième siècle. Et puis, c'est l'époque où il y a des ministères itinérants. Donc, des gens qui viennent d'église en église, etc., et qui se disent prophètes ou enseignants. Et alors, l'exhortation d'un des pères de l'Église dit, si vous avez quelqu'un qui vient et qui se dit prophète, recevez-le. OK, on reçoit, on écoute sa parole. S'il reste 3 jours, foutez-le dehors, c'est un faux prophète. une manière d'être là pour essayer de... Voilà. On les reconnaît à leurs fruits. Mais je pense rester dans le contexte général en nous mettant en garde contre nous-mêmes. Je ferme la parenthèse et j'en ouvre une autre. Jésus ne nous dit pas de nous méfier des miracles, des délivrances et des guérisons, mais de nous méfier de ne pas faire la volonté du Père Céleste, d'être seulement que dans l'apparence et non dans l'obéissance. Que le Seigneur nous donne des délivrances, que le Seigneur nous donne des guérisons et des miracles, mais surtout que nous soyons dans l'obéissance. Et puis il y a le verbe « entrer ». Entrer, c'est une invitation. Entrez, je vous prie. Entrez, oui, par la porte étroite. La porte est étroite, certes, mais la porte, elle est ouverte. Elle n'est pas fermée. La porte, est-ce une entrée ou un aboutissement ? Je crois que la porte n'est pas un aboutissement du chemin, mais le commencement du chemin. C'est derrière la porte que commence le chemin. C'est une fois la porte passée que commence un nouveau chemin. C'est un petit peu comme si Jésus nous disait « Je vous ai montré le chemin sur lequel marche le disciple qui veut suivre son maître. » Et on a tout le développement du sermon sur la montagne. Mais ce chemin, il a un commencement, une entrée, une porte. Pourquoi la porte est-elle étroite ? Pourquoi la porte est-elle étroite ? Je peux trouver plusieurs raisons à cet adjectif. Fred m'en a soufflé une. Il m'a dit, c'est parce qu'on y rentre seul. Eh oui, on y rentre seul, chacun individuellement. Vous avez vu ces sketchs où 2 personnes essaient de passer une porte ensemble. Ils se font des politesses. Ben, après vous, monsieur. Et puis quand ils décident enfin d'y aller, ils y vont tous les deux. Et puis paf, ils sont bloqués contre la porte. Et oui, effectivement, ce n'est pas possible de passer à plusieurs au travers de la porte étroite. Seconde raison, parce qu'on y passe en déposant tout, son passé, son péché, ses prétentions, sa volonté propre, son désir d'autonomie, son ancienne manière de vivre. Si vous voulez passer la porte avec tous vos bagages, la porte est étroite. Impossible. L'apôtre Paul raconte que les Thessaloniciens se sont convertis à Dieu. Et vous savez comment il décrit ce passage-là, de cette conversion ? Vous avez abandonné les idoles, vous avez abandonné les idoles pour vous tourner vers le Dieu vivant. Vous avez abandonné, vous avez été dépouillé de votre ancienne vie. Pour entrer par la porte étroite, lorsqu'on rentre dans la porte étroite, par la porte étroite, on abandonne, on est dépouillé, parce qu'on ne peut pas passer avec tout ça. Mes amis, la porte étroite est plus un qui qu'un quoi. Hein ? Qui est la porte étroite ? Eh bien, c'est Jésus. D'ailleurs, lui-même, dans l'évangile de Jean, va dire « Je suis la porte ». Hein ? Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Passer la porte étroite, cela s'appelle la conversion, cela s'appelle naître de nouveau, cela s'appelle donner sa vie à Jésus, tout simplement. Je donne ma vie à Jésus. Pas simplement ce qu'il y a de meilleur, comme dit un certain chant, mais c'est tout le package de notre vie, le bien et le mauvais, les bonnes réalisations et les échecs, les œuvres dont nous sommes fiers et les œuvres dont nous ne sommes pas fiers. Lorsqu'on passe par la porte, il y a un avant et il y a un après. Et il y a une invitation. Entrez par la porte. Entrez par la porte. Et puis, la porte est étroite parce qu'elle est exclusive. Par Jésus seul. Par Jésus seul. Un seul chemin, une seule porte. Et c'est là que ça coince pour les mentalités du temps du Jésus, mais aussi pour celles de notre propre temps et en fait pour toutes les périodes de notre histoire. Notre époque, elle est dite post-moderne, post-chrétienne. Et une des valeurs de la post-modernité, c'est qu'il n'y a aucune vérité absolue. Chacun trouve sa vérité. Dire que Jésus est le seul chemin, dire avec Pierre, dans son sermon, qu'il n'y a de salut en aucun autre, qu'il n'y a aucun autre nom sur la terre, dans le ciel, qui nous a été donné que celui de Jésus-Christ et par lequel nous pouvons être sauvés, eh bien, c'est quelque chose qui est inadmissible pour notre société. Ils vont nous dire, vous avez un esprit étroit, vous les chrétiens. Non, on a une porte étroite, mais on n'a pas un esprit étroit. Combien de choses, combien de chantiers, combien de valeurs a véhiculé l'Évangile ? L'hôpital, l'hôtel Dieu, comme on l'appelait, l'orphelinat, l'école, l'égalité devant Dieu de tous les hommes et de toutes les femmes, la science, la bienfaisance, le repos dans la semaine de travail. Tout ça, ça a été véhiculé par les valeurs de l'Évangile. Est-ce que c'est étroit, ça ? Vous trouvez que c'est étroit ? Est-ce que Jésus est étroit lorsqu'il vient toucher le lépreux que personne ne voulait toucher ? Alors, bien sûr, l'Église, elle a fait des bêtises. Et vous savez, quand est-ce que l'Église a fait des bêtises ? C'est lorsqu'elle a abandonné la porte étroite, lorsqu'elle a voulu marcher sur le chemin spacieux du pouvoir sur les hommes. Il y en a peu qui rentrent par la porte. Seuls Siméon et Anne, dans le temple, reconnaissent le Sauveur en la personne d'un bébé. Ils sont nombreux dans le temple, mais seuls Siméon et Anne. Siméon dit, mes yeux ont vu ton salut en prenant le bébé. Mes yeux ont vu ton salut. L'autre porte est le chemin qui suit. Et spacieux. Il y a tellement d'offres de salut dans le monde. Ceux qui marchent sur le chemin spacieux discutent entre eux. Oh, ben l'important, c'est que ça te fasse du bien. Qu'importe ce que tu crois. Si ça te fait du bien, c'est bon. Si tu as trouvé ton propre chemin, c'est bon. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui imite Céline Dion ? Personne ? Bon. En ouvrant ma page internet Google, il y avait un truc de Céline Dion. Croire en soi, c'est croire en Dieu. Ben voilà. c'est la pensée du monde, large. Hein ? Chacun fait son salut. Croire en soi, c'est croire en Dieu. Je lis l'Évangile, ben non. C'est pas ça. Sur ce chemin spacieux, il y a ceux qui croient en tout. Ceux qui croient en rien, et ceux qui croient en rien consultent quand même les horoscopes. Incroyable. Il y a ceux qui croient qu'ils font leur propre salut. Le salut par la réalisation de soi, le salut par la méditation, le salut par un tel ou un tel. Il y a tellement d'offres. La porte est large, le chemin est spacieux, mais la fin, c'est la destruction. Alors pourquoi la porte est étroite ? Pourquoi y aurait-il un seul chemin ? Dieu, tu t'es pas trompé ? Non, tout simplement parce que Jésus le dit et qu'il nous faut être cohérents avec ce que Jésus nous dit. Dire que Jésus c'est un super gars, qu'il c'est un mec bien et ne pas faire attention à comment il se présente, c'est être incohérent. Et regardez comment il se présente dans le texte. Je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Ceux qui entendent les paroles que je dis et qui les met en pratique, c'est un homme sage. Jésus se met vraiment au centre. On va dire, pétard, Jésus, tu es égocentrique là, tu parles que de toi. Ben oui. Jésus parle de lui et il parle de lui comme ayant autorité. Et la domination reposera sur ses épaules. Jésus a dit qu'il y a un seul chemin, que c'était lui, qu'il y a une seule porte, et c'est lui. Et il le dit parce qu'il est Dieu qui le dit. Jésus affirme son autorité et l'autorité de ses propres paroles. Alors si vraiment Jésus, c'est un mec bien, si, alors il faudrait écouter quand même ses paroles. Alors je voudrais conclure simplement, et je voudrais m'adresser à ceux qui sont juste devant la porte étroite, qui hésitent à franchir la porte. Peut-être il y en a parmi nous ce matin, je ne vous connais pas tous. Si tu n'es pas sur le chemin resserré, tu es en train de marcher sur le chemin spacieux. Il n'y a pas de entre-deux. Tu es invité à Jésus à entrer. Par Jésus à entrer. Entre. Veux-tu le faire ? Veux-tu le faire ? Tu peux t'adresser à lui comme moi je l'ai fait. Il y a plus de 78, 2022, enfin, je ne sais plus compter. Voilà. Ce n'est même pas 78, 78, c'est l'année de mon mariage. C'est 75. Adresse-toi à lui, dans le secret de ton cœur, et tu peux lui dire, je viens, Seigneur. Je veux rentrer. Je veux passer la porte. J'abandonne mes prétentions. J'abandonne mon passé. J'abandonne mon péché. J'abandonne mes ambitions et mes échecs. Seigneur, sauve-moi. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, je viens, je passe, je passe. Le Seigneur a mis devant toi deux chemins, où il y a deux chemins devant toi. Chemin de la vie, chemin de la mort. Choisis la vie afin que tu vives. C'est son invitation, c'est une invitation. Entre. Puis je voudrais m'adresser aussi à ceux qui sont sur le chemin resserré, ceux qui marchent. Le chemin n'est pas facile, il est dit, tout le temps. Mais rassure-toi, tu ne marches pas tout seul. Ne désespère pas, Jésus est proche de toi sur ce chemin. Lève les yeux, il est juste devant toi, ou il est juste derrière toi, ou il est juste en train de te porter. Jésus est le berger, comme on l'a chanté ce matin. Il te conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Il est souverain, rien n'arrive dans ta vie qu'il ne l'ait permis, en tout cas sans sa présence. Il est souverain, il a reçu toute autorité. Tu avais reconnu son autorité lorsque tu avais franchi la porte. Reconnais-la encore aujourd'hui, quand tu marches maintenant. Quand tu as à faire des choix, demande-lui, non pas simplement des conseils, demande-lui ce qu'il veut pour toi. On va prier. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce qu'elle est vie et elle nous appelle à la vie. Et Seigneur, je te prie, Seigneur, pour ceux qui sont juste devant la porte maintenant. Et je demande, Seigneur, de qu'ils puissent entendre ton appel ce matin. Entrez, entre par la porte étroite. Entre, c'est moi qui t'invite. Et je te promets que tu ne seras pas seul sur ce chemin. Je serai avec toi. Je marcherai avec toi. Je ne t'abandonnerai pas. Tu as juste à entrer, à dire « Je viens, Seigneur », à le dire dans ton cœur. Seigneur, je te prie pour cela, Seigneur. Seigneur, tu les connais et tu les appelles. Et Seigneur, je veux te prier aussi maintenant pour ceux qui suivent ce chemin qui est resserré et qui trouvent des difficultés sur ce chemin. Tu as dit que ce n'était pas facile. Mais Seigneur, tu marches et je voudrais te demander, Seigneur, de manifester ta présence sur ce chemin, de leur montrer ta présence forte. Seigneur, tu es vraiment là, à côté d'eux, à côté de nous. Nous avons le désir de te suivre, Seigneur. Amen. Amen. Soyez